Amen, amen. Je vais commencer par dire merci parce que beaucoup d'entre vous donnent des retours par rapport à la prédication. C'est vraiment très encourageant. C'est très encourageant de recevoir des retours de votre part, pas seulement pour les membres du conseil, mais c'est vraiment chacun d'entre nous qui s'applique à la prédication. Et je voulais vous dire merci de la part du conseil. Amen. Ah, je préfère ça. Je vais dire quand même, c'est comme si c'est l'amour du Seigneur, le fil. Donc je vais m'attacher à l'amour du Seigneur. Je vais m'attacher à la présence de Dieu. Je vais m'attacher à m'accrocher à l'esprit du Seigneur. Ce que j'ai à partager ce matin, c'est quelque chose d'assez difficile. Je dis cela pour que vous vous accrochiez. Il faut vous accrocher dès le début. Si vous êtes nouveau dans la foi, vous voulez grandir de nouveau dans la foi, c'est clair que ce que je vais partager aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un peu plus costaud. Alléluia! Tu peux enlever l'effet. Amen! Je vais parler de choses difficiles comme des choses comme être crucifié avec Christ. Des choses comme être ressuscité avec Christ. Des choses comme être assis dans les lieux célestes avec Christ. Des choses comme si ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est pas des choses super faciles à comprendre. En tout cas, moi, quand on chantait « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi », je m'arrêtais avant. Je m'arrêtais avant parce que c'est difficile pour moi. Je pensais qu'il fallait être au top, au niveau de Christ, pour pouvoir chanter cela, pour pouvoir le dire. Je vais parler des choses assez difficiles. Et pour commencer, je vais entrer dans un verset. Aujourd'hui, le titre du message, ça parle de la puissance qu'il y a dans la prière. La puissance qu'il y a dans la prière. C'est un peu une manière chaudefonnière de dire la puissance qu'il y a. La puissance qu'il y a dans la prière, c'est ce que je vais essayer de partager aujourd'hui. Vous entendez des gens prier. Vous pouvez être conscient qu'il y a des prières qui bouleversent le monde spirituel. Il y a des prières que quand les gens y prient, les dominations tremblent. Il y a des prières qui font trembler les forteresses. Et qu'est-ce qui fait que quelqu'un prie et quelqu'un est libéré? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un demande et il reçoit? Qu'est-ce qui fait que la prière déclenche quelque chose dans le monde visible? Il y a une puissance. Il y a une puissance qui est dans la prière. N'oubliez pas que la prière, c'est notre premier contact avec le monde spirituel et avec notre Père céleste. Nous touchons la puissance de Dieu par la prière. Parce que nous prions, il se passe quelque chose sur la terre. C'est mon verset préféré. Éphésiens 1, 15, je vais lire. Au 15 jusqu'au 23. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle espérance vous avez, vous qui êtes appelés par notre Père, vous à qui Jésus a donné sa vie, il y a une espérance qui est rattachée à votre vie. Le ciel a préparé quelque chose pour vous. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Amen. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Quelle est la richesse de la gloire qu'il te réserve? C'est ça ce que ça veut dire. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? C'est de ça que je vais parler ce matin. Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans ce siècle présent, mais dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude qui remplit tout en tous. Qui n'aimerait pas avoir la plénitude qui remplit tout en tous? La plénitude qui remplit tout en tous te permet de traverser la vie avec la puissance de Dieu. C'est avec ça que tu dois prier pour toucher le ciel. C'est avec ça, rempli de la plénitude qui remplit tout en tous. Tu dois chercher cela. Le verset de base, parce que toutes ces compréhensions, c'est des compréhensions paulinienne, c'est la théologie de Paul. Et c'est par l'apôtre Paul que nous avons reçu en fait ces compréhensions des choses. Mais le verset de base de ce que je vais partager aujourd'hui, encore un autre, c'est l'apôtre Pierre qui l'a dit. C'est l'apôtre Pierre qui l'a dit. Et il dit quelque chose comme ça. C'est dans 2 Pierre 1, à partir du verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Afin que par elles, vous deveniez participant à la nature divine. Participant à la nature divine. Qu'est-ce que vous comprenez, vous? J'espère que vous n'avez pas peur. Vous devenez participant à la nature divine. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. S'il faut que ce que tu dois savoir, c'est que la bouche t'a été donnée pour se charger de ta destinée, pour se charger de ton appel. Ta bouche t'a été donnée pour que la plénitude qui remplit tout en tous vienne sur toi. Si tu ne parles pas, si tu n'utilises pas ta bouche, si tu ne pries pas, il n'y a pas de rencontre entre l'invisible et le visible. Encore un autre verset, Ésaïe 43. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Ton premier père a péché. Et tes interprètes se sont rébellés contre moi. Il dit, réveille ma mémoire et plaidons ensemble. Il dit, parle toi-même pour te justifier. Parle toi-même pour te justifier. Tu sais, je peux prier pour toi, mais en fait la parole te dit, Parle toi-même pour te justifier. Quand nous venons ici, nous nous rassemblons ensemble. Nous venons ici pour parler. Nous venons ici pour parler à notre Dieu. Il y a quelque chose de mystérieux derrière. Parce qu'il dit, réveille ma mémoire? Est-ce que Dieu perd la mémoire? Mais non, Dieu ne perd pas la mémoire. Pourquoi alors il dit réveille ma mémoire? Il te donne une clé. Il te donne une clé. Il te dit c'est ça la clé. Tu veux prier? Tu veux être puissant dans la prière? Retiens-le. Réveille ma mémoire. Je vois des gens qui réveillent la mémoire de Dieu quand ils sont au boulot. Je vois des gens qui réveillent la mémoire de Dieu dans leur maison. La mémoire de Dieu sur la destinée de leurs enfants. La mémoire de Dieu sur la destinée de l'Église. Dieu dit, redis-le-moi s'il te plaît. Réveille ma mémoire. C'est une clé. Dieu entend. Dieu ne perd pas la mémoire. Il n'a pas l'Alzheimer. Ça ne vient pas du Seigneur. Dieu veut juste que tu l'utilises. Et il dit, viens, viens. On va plaider ensemble. Parle toi-même. C'est à toi de parler. C'est à toi de dire les choses. C'est à toi de le formuler devant le Seigneur. C'est à toi de me convaincre. Le Seigneur attend qu'on le convainc. La vie en Christ, la vie de foi en Christ en général, en fait, c'est pas quelque chose de compliqué. Tu es censé vivre dans la victoire, même au milieu de la tempête. Même quand il y a des choses difficiles, tu es censé vivre au milieu de la victoire. Un jour, le bateau a été secoué par l'eau. Il y avait plein de disciples dedans et le Seigneur aussi était à l'intérieur. Et l'eau commençait même à rentrer et les disciples commençaient à avoir peur parce que, bien sûr, on est en pleine mer. Mais moi, ça m'étonne cette histoire parce qu'en fait, c'est des pros. Hein. Vous savez que c'est des pros, ils vont en mer tout le temps. Mais ça devait être vraiment fort. Ça ne devait pas être comme d'habitude. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue. C'est que Jésus, il dormait. Jésus dormait. Si vous êtes quelqu'un qui vit dans le prophétique, comme Jésus, vous pouvez avoir une idée. Parce que le Seigneur, lui, il reçoit des révélations. Le Seigneur, lui, il vit en connexion, en permanence. Mais là, sur cette situation, il dormait. Ce n'est pas écrit ce que je dis là maintenant. C'est une compréhension de ma part. Et les disciples disaient, mais ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Et le Seigneur se lève, menace la tempête s'éteint. C'est un, il leur pose la question, où est passée votre foi? Où est passée votre foi? C'est l'exercice de la foi qui donne l'autorité. Si l'exercice de la foi donne l'autorité, Jésus, il était vachement entraîné, vraiment. Il était super exercé. Il était exercé dans tous les domaines, même dans la tempête. La réponse à toutes les tempêtes de la vie vient du fait qu'il y a la foi exercée. Dans le psaume 18, 34, ça parle du fait que tu exerces mes mains en combat et mes bras tendent l'arc des reins. Il y a des choses que tu dois faire pour être exercé. Il y a des... ça ne vient pas tout seul. Moi, j'ai appris à chanter dès l'âge de 4-5 ans. Et encore aujourd'hui, j'apprends encore à chanter. Donc, l'exercice te poursuit tout au long de ta vie. Le Seigneur, il n'est pas arrivé juste comme ça, tac, il est Dieu, Dieu sur la terre, la parole est faite chair et il devient exercé. Le psaume 18, 34, le psaume 144, 1, 2 Samuel 22, 34, c'est les mêmes versets. Il y a des ressemblances pour être beaucoup plus précis. Ça parle toujours de la même chose. Il y a des versions qui parlent que les bras de celui qui a exercé étaient tellement forts qu'en tirant, il a brisé l'arc. Il brise l'arc tellement il est fort. La foi, pour être puissant, doit être exercée. Si nous n'exerçons pas notre foi restera notre foi d'enfant. Jésus-Christ était un enfant. Je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé entre Jésus-Christ qui avait 12 ans, conscient de sa mission dans le temple, tout le monde était étonné par rapport à sa conscience, et le Jésus-Christ qui faisait du bien partout. Le Jésus-Christ qui guérissait les malades. Il y avait quoi entre? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la parole, on ne le trouve pas. Mais vous pouvez aller voir ce que c'est le psaume d'être exercé. D'être exercé. Le Fils de Dieu a dû lui-même s'exercer. Lisez Ésaïe 50. Ésaïe 50 parle d'un prophète. Prophète qui ne retire pas ses oreilles par rapport à la parole de l'Éternel. Et lui, il lui a donné le discipula, l'entraînement pour être fort dans ce qu'il fait. Apprendre, apprendre, apprendre. Jésus-Christ comme prophète a dû apprendre. Jésus-Christ comme fils de Dieu a appris les choses par lesquelles il a souffert. L'obéissance. L'obéissance de Jésus, la manifestation de sa force, n'est pas venue juste comme ça. Mais c'est venu parce qu'il s'est entraîné. Il avait rendez-vous avec son Père. Il fait tout ce qu'il faisait dans la vie, la journée. Il guérissait les gens, il touchait ils ouvraient les yeux des aveugles. Et la nuit, il va rencontrer son Père. Il se met de côté. Un jour, Jésus sort d'une ville. Jésus sort d'une ville et il commençait à voir la réputation qui grandissait. Les gens étaient dans l'effervescence. Ils étaient en train de se dire, mais cette fois-ci, il y a le Messie qui est là. Ils commençaient à le reconnaître. Ils commençaient à voir qui il était. Donc, les gens commençaient à le suivre. Ils sortaient de la ville et il y avait un aveugle qui est sur le côté. L'aveugle a entendu que c'était Jésus qui était en train de passer. Il a crié. Il a commencé à crier. « Fils de David, aie pitié de moi !» Il commence à crier et les gens l'arrêtent. « Arrête, calme-toi !» Et au fur et à mesure qu'ils ont essayé de le calmer, il commençait à crier beaucoup plus fort. Il a tellement insisté que le Seigneur a entendu. Le Seigneur a entendu, il est venu le voir et il lui a posé la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Avant d'aller plus loin, le Seigneur te pose la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée répond. Je veux voir que je vois. Est-ce que vous savez? Vous avez une idée de qui était Bartimée? Est-ce que vous pensez que Bartimée était un homme de prière? Qu'en pensez-vous? Ben non, on ne le sait pas. Mais ce Bartimée-là, le Seigneur voulait juste passer. Le Seigneur sortait. Le Seigneur passe. Mais cet homme-là a réussi à arrêter le Seigneur. Le Seigneur vient, il prie pour lui. Ta foi t'a sauvé. C'est ça qu'il dit. Ta foi t'a sauvé. C'est par la foi que Bartimée a été changé. À cet instant précis, à cause de son appel, sa destinée change complètement. Il y a un tournant là, c'est quelque chose d'impressionnant. Si vous savez que votre destinée dépend de votre bouche, vous ferez autrement. Si vous savez que c'est parce que Bartimée n'a pas arrêté de crier, qu'à un moment donné, Dieu lui dit, Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Il est là comme quelqu'un d'aveugle. Après cela, il devient quelqu'un qui voit. Imaginez la destinée qui commence. La vie va pouvoir commencer. C'est à partir de là qu'il peut faire des projets. Il peut voir les gens. Il peut imaginer ce que ça peut faire dans une vie quand vous criez à Dieu. Et à un moment donné, Dieu change votre destinée. Dans Proverbes 12, c'est écrit « Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien, et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. » Dans Philippiens 4, au verset 5, c'est écrit « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Quand on parle de prière, aujourd'hui, la prière est associée à une demande. C'est vraiment devenu la compréhension commune de voir que quand on parle de prière, c'est pour demander quelque chose. Et c'est devenu comme ça. Et des fois, on ne reçoit pas ce qu'on veut demander. Alors, notre focus est sur le fait, nous demandons encore, et nous ne cessons pas de demander. Alors que la réponse ne vient pas. Le problème est au centre maintenant. Le problème a pris toute la place de nos vies. Ça enlève notre sommeil, ça enlève notre paix, ça enlève tout de notre vie. Ça enlève tellement tout que ça enlève Dieu de notre vision. Nous sommes tellement centrés sur le problème et le demander que le problème devient un Dieu. Ce que dit l'apôtre Paul dans Philippiens, il dit « Faites connaître. » Faites connaître, il dit. Faites connaître, en fait, veut dire « Faites des demandes avec foi. » Utilisez votre foi pour demander. Quand la foi est mise de côté dans nos prières, la prière reste sans réponse. Dieu n'est pas ému parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui touche Dieu, c'est la puissance de ta foi. C'est ta foi exercée, la sincérité de ta foi. C'est ça qui touche Dieu. Et là, Dieu commence à se mouvoir. Dans Hébreux 11, ça parle de la foi, mais ça parle des héros de la foi. Moi, j'aimerais parler de la foi des héros. Vous pouvez vivre ici à La Chaux-de-Fonds comme tous les habitants de La Chaux-de-Fonds. Vous pouvez vivre dans le monde comme étant du monde. Mais vous pouvez aussi être dans le monde comme étant en Christ. Christ est un endroit, le monde est un endroit. Vous pouvez vivre dans le monde. Vivre en Christ, pardon, si vous vivez en Christ, vous ne portez pas, on ne reconnaît pas les signes du monde sur vous, parce que Christ est un endroit. Si vous vivez dans le monde et qu'en étant, en appartenant à Christ, les signes de Christ, on verra sur vous. La foi fonctionne dans la limite de la parole. Ça touche Dieu seulement entre la limite de la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est parce que j'écoute la parole de Dieu que ma foi commence à grandir, commence à toucher. Quand la parole de Dieu vient et vient dans mon cœur et touche ma vie et change ma vie, c'est là que ma foi grandit. La limite de la foi est dans la parole, cachée dans la parole. Vous pouvez être en Christ et ne pas être dans le monde et être en Christ. Oh là là. Vous pouvez être dans le monde et porter la foi en Christ, porter les attributs de Christ. Quand Christ vient à l'intérieur de vous, vit à l'intérieur de vous, la parole est en vous. La parole vit en vous. La parole commence à agiter votre vie, à donner la vie, à vous faire grandir. Et quand il fait cela, la foi aussi grandit. Là, je vais entrer dans quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Je vous préviens, c'est un peu bizarre. Mais suivez-moi jusqu'à la fin et venez m'en parler après si vous avez des questions. Je vais parler du fait que nous sommes nés de la parole. Est-ce que vous avez déjà entendu cela? Non. Hein? Peut-être qu'il y en a qui connaissent des prédications. Oui, bien sûr. Amen. Mais est-ce que vous savez que vous êtes né de la parole? À partir du moment où vous vous êtes converti, vous avez donné votre vie à Dieu, Jésus a payé le prix pour vous, vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous êtes né de Dieu. Né de Dieu. Dans 1 Pierre 1, 3, c'est écrit comme ça, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. » Donc, la nouvelle naissance est référencée par rapport à la résurrection de Jésus-Christ. Dans 1 Jean 3, 9, c'est écrit comme ça, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu, la parole, le germe, demeure en lui. Il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Né de Dieu. Dans 1 Jean 5, 18, c'est écrit, « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point, mais celui qui est né de Dieu ne se garde lui-même et le malin ne le touche pas. » Comment on vient de parler des héros de la foi? Abraham vivait sur la terre comme un étranger. C'est-à-dire qu'Abraham appartenait à un autre niveau. Il était étranger par rapport à la terre. Est-ce que vous savez si Abraham était né de Dieu? Je vous ai prévenu, c'est quelque chose qui est un peu difficile, ce que je suis en train d'expliquer. Est-ce que Abraham était né de Dieu? Écoute, c'est parce que tout simplement c'est écrit, c'est par la résurrection de Jésus-Christ qu'on est on reçoit le salut qui vient de Dieu. Abraham, c'est le père de la foi. David n'a pas notre expérience. Les prophètes n'ont pas notre expérience. Parce que tous ceux qui sont venus après Jésus-Christ pouvaient donner leur vie et recevoir la vie en Christ. Ils sont nés de Dieu. Mais pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce que ce n'est pas la même chose si vous êtes né de Dieu ou vous n'êtes pas né de Dieu. Mais ce n'est pas la même chose. Quand on dit « je suis enfant de Dieu » en Jésus, amen. Quand on dit « je suis enfant de Dieu », ce n'est pas la même chose que tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas plus grand que les patriarches. Ce n'est pas du tout ça. C'est juste un privilège. Nous profitons de la grâce. Nous profitons d'être morts à la croix, crucifiés avec Christ, ensevelis avec Christ, ressuscités avec Christ, assis dans les lieux célestes avec Christ. C'est ça ce que ça veut dire. Si vous n'avez pas cette expérience-là, c'est impressionnant tout ce que vous loupez. Tout ce que vous loupez dans une vie, vous pouvez prier, vous pouvez allumer autant de bougies que vous voulez. Moi, je prends toujours cet exemple. Allumez autant de bougies comme vous voulez, ça ne changera rien. Mais si vous êtes conscient que vous êtes enfant de Dieu, si vous êtes conscient que vous avez été crucifié avec Christ, ressuscité avec Christ, assis en Christ dans les lieux célestes, vous êtes dans la maison de Dieu. Vous pouvez chuchoter aux oreilles de notre Dieu. Vous êtes dans l'endroit le plus, c'est là que tu reçois la puissance. Mais le mystère de ce que je veux partager ce matin se trouve dans le fait que la parole de Dieu, c'est la limite de la foi. Nous, on est nés de Dieu, donc nés de la parole. C'est ça le lien que je fais. La semaine passée, je parlais du fait que nous devons inviter Dieu. Nous devons inviter Dieu dans nos difficultés. Alors que nous invitons Dieu, Dieu vient. Et il s'autorise à changer nos vies. J'ai parlé aussi du fait qu'il y a une attitude à avoir dans le feu. Quand vous passez par la difficulté, il y a une attitude à avoir. Vous invitez Dieu et à cause de votre foi, à cause de votre marche dans le feu, Dieu descend avec vous. Et Dieu vous rend fireproof. Dieu vous rend l'eau, c'est comment déjà, ta mère? Waterproof! C'est à cause de votre marche. C'est à cause du fait que vous avez appelé Dieu. Vous l'avez invité. Il y a des choses comme ça où vous invitez Dieu. Mais dans la marche, et c'est là que je vais aller plus loin par rapport à ce que j'ai dit la semaine passée, il y a des situations où, à un moment donné, vous n'appelez plus Dieu. Vous n'appelez plus Dieu à venir dans votre situation. Vous devenez un représentant de Dieu. Vous le représentez face aux dominations. Vous le représentez face aux autorités. Vous le représentez face aux situations. Et là, la différence de celui qui est né de Dieu et celui qui n'est pas né de Dieu. Comment vous pouvez représenter Dieu si vous n'êtes pas né de Dieu? Comment nous représentons Dieu avec la parole? Quand on est né de la parole est à l'intérieur de nous, la parole nous nourrit, c'est comme ça qu'on apprend à prier avec la parole. C'est avec cette identité-là que je représente Dieu. Donc je représente Dieu face à des situations qui sont impossibles. Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. D'où ça vient? C'est la parole. La parole le dit. C'est le genre de choses que les gens ne prennent pas au sérieux, d'être nés de la parole. Les gens ne le prennent pas au sérieux, pourquoi? Parce que ce n'est pas assez souvent enseigné. Ce n'est pas souvent enseigné, pourquoi? Parce que c'est difficile de l'expérimenter. Il faut l'avoir vécu pour le dire. Il faut l'expérimenter. Un jour, je prêchais sur la puissance de Dieu. Et à la fin de la prédication, un frère vient me voir et le frère me dit « Ouais, j'ai bien aimé ta prédication, mais moi, la délivrance, c'est pas mon truc. » C'est ça qu'il me dit. Et moi, j'étais là, qu'est-ce que je vais dire, Seigneur? J'étais pas triste, mais j'étais juste étonné, mais un peu choqué quand même. Parce que je me posais la question, mais comment fait le frère alors? Qui chasse les démons sur ses enfants? Comment il fait? Qui chasse les autorités dans sa maison? Et dans sa vie, quand il y a des esprits qui attaquent et qu'il y a des gens qui ont des accidents, qu'est-ce qui empêche les accidents dans sa vie? Comment il fait pour être gardé? Jésus a dit, il y aura des signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom. Alors, est-ce que je vais laisser Denis faire pour moi à chaque fois? Mais non! Dieu m'appelle aussi, Dieu t'appelle aussi, et chacun d'entre nous. Voyez-vous, il y a la mort, il y a la résurrection. La mort te donne le salut. Le salut, tu l'as, et il y a beaucoup de chrétiens qui campent là-dedans. Toute leur vie, ils restent là-dedans. Ils n'expérimentent pas la puissance de Dieu qui vient de la résurrection. La puissance de Dieu vient seulement de la résurrection. Tu peux être sauvé et attendre et tu seras sauvé. On se verra au ciel. On est OK par rapport à ça. Mais je vous dis, la résurrection, la puissance de la résurrection vient seulement quand tu expérimentes la résurrection de Dieu. L'Esprit qui a ramené Jésus des morts. Je lis 2 Pierre 1 et je vais aller au bout de ma prédication. C'est écrit comme ça. Comme sa divine puissance nous a donné, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes promesses et les plus précieuses promesses, afin que, par elles, vous deveniez participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Ça nous a été donné. Quand est-ce que ça nous a été donné? Aidez-moi. Quand est-ce que ça nous a été donné? Ça nous a été donné à la conversion. Je ne suis pas spécialiste du français, mais c'est « nous a donné ». C'est fait, non? Ça a été fait. Voilà la différence entre celui qui est converti et celui qui n'est pas converti. Parce que la puissance pour agir dans la vie a été donnée là. C'est précisément à cet instant-là. C'est ça que tu utilises dans la vie. Et c'est écrit aussi la piété. La piété, c'est la vie avec Dieu. Ta manière d'interagir avec Dieu. C'est ton culte, c'est ton adoration. C'est ta manière de marcher avec Dieu. La puissance t'a été donnée pour que tu puisses l'exercer dans la marche avec Dieu. Quand tu pries pour les malades seront guéris. C'est ça ce que ça veut dire. Et c'est ça qui est impressionnant. Le Seigneur a levé une armée de gens à qui il a donné la puissance. Ça nous a été donné. Comment ça fonctionne? La parole à l'intérieur de nous, par la limite de la parole et la foi qui est exercée. Il dit au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Ça veut dire qu'il y a des gens qui connaissent Jésus peut-être un peu mieux que les autres. Ou bien il y a des gens qui connaissent moins bien. Mais c'est selon ta connaissance de la parole. C'est selon ta connaissance de Jésus. C'est ça qui t'aiderait à agir avec puissance. C'est ça qui fera que tu seras participant à la nature divine. Mais ça, mais j'aime. C'est tellement génial, participant à la nature divine. Alors, est-ce qu'on va devenir Dieu? Mais non! On participe à la nature divine. Jésus l'explique comme ça. Je suis le cep et vous êtes les sarments. J'ai la même vie que Jésus en moi. J'ai été ressuscité avec Christ. Je suis assis dans les lieux célestes avec Christ. C'est comme ça que la vie se manifeste. Et alors, je reviens sur le verset de base que j'ai dit au tout début. C'est pourquoi nous aussi, ayant entendu parler de la foi de l'Église de réveil en Jésus-Christ, j'ai entendu votre charité pour tous les saints. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. À partir d'aujourd'hui, chaque membre de cette église devrait savoir qu'il est né de Dieu. Chaque membre de cette église devrait être rempli de ce que c'est la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. La parole a été faite chair, il est venu parmi nous et nous avons contemplé sa gloire. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? C'est d'être de pouvoir le représenter dans les situations, sur les dominations, sur les autorités, pas seulement, mais aussi prier pour que Dieu nous bénisse, prier aussi pour que les choses avancent, manifester le royaume de Dieu. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Par quelle puissance Dieu veut agir dans votre vie? Si Denis va dans la rue et qu'à chaque fois qu'il parle, la personne est convaincue et il voit que la personne est malade, il prie pour la personne et la personne est guérie, c'est par quelle puissance ça? L'infinie grandeur de sa puissance. Il y a tellement d'infinie grandeur de sa puissance. Le truc qui remplit tout en tous. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Si vous campez sur le salut, vous n'avez pas de puissance. Si vous vivez la résurrection, vous avez la puissance. La puissance est cachée dans la résurrection. Père, merci pour tout ce qu'on a pu partager aujourd'hui. Père, ma prière, c'est que chaque personne qui est entrée, qui a entendu, ne ressorte pas comme chaque personne est venue. Seigneur, je te demande de naître en eux. Je te demande que ta parole soit cachée en eux. Je te demande que ta foi, que leur foi soit exercée. Père, je prie pour que tu les conduises. Je prie pour que tu les remplisses et qu'ils savent qui ils sont devant les ténèbres, qui ils sont devant les situations difficiles. Montre-leur, Père, et donne-leur ta puissance. Je prie que chaque personne ici soit remplie de ta puissance. Je prie que cette église soit remplie de ta puissance. Seigneur, donne-nous de démontrer qui tu es. Tu es notre Dieu. Merci Seigneur parce que tu rappelles à quelqu'un qu'il est enfant de Dieu. Merci Père, merci pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Je te demande de graver ces choses dans les cœurs. Merci Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse.